Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour sur Europe 1, en compagnie de Franck Ferrand, nous nous apprêtons à revivre un moment fort de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. On pourrait même parler de 24 heures de suspense, puisque je vais vous raconter cet après-midi l'un des épisodes les plus dramatiques de la Révolution française. Peut-être le plus dramatique d'ailleurs, la fuite en pleine nuit de la famille royale en direction de Montmédy et cette course-poursuite qui s'est ensuivie jusqu'à l'interception de la berline des fugitifs à Varennes.
Et c'était précisément le 21 juin 1791.
Oui, il y a donc 220 ans tout rond aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Mes invités, comme d'habitude, sont des experts émérites de la question.
Et les messages qui nous arrivent par Internet sont plus nombreux chaque émission, faut le dire.
Oui, oui, tant mieux. Moi, c'est ce que j'avais espéré depuis le début. Alors, à présent, il est temps de remonter 220 ans en arrière jusqu'à cette nuit fatidique du 20 au 21 juin 1791.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Napoléon disait du drame de Varennes qu'il avait changé la face du monde. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il marque un grand virage dans la Révolution. Il y a, si vous voulez, un avant Varennes et un après. Voilà un malentendu terrible qui aura consommé le divorce entre le peuple français et sa vieille monarchie. Avant Varennes, la Révolution est déjà bien avancée, le climat social très dégradé, mais le lien de respect qu'il y ait une immense majorité de Français à la famille royale restait encore très fort. Après Varennes, on peut dire que ce ne sera plus la même chose. Les gens vont se sentir trahis, trompés, et l'opinion finira par accepter l'idée d'une république. Un ouvrage vient de paraître qui présente le mérite, si j'ose dire, de remettre les pendules à l'heure à propos de Varennes. Son auteur sera l'un de mes invités pour la seconde partie de cette émission. Et avant cela, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, contrairement à une opinion très répandue, du début à la fin de cette tragique aventure, le roi Louis XVI, et a fortiori sa famille, avait vraiment envie que cette évasion réussisse. Alors, j'ai lâché le mot « évasion », c'est peut-être un petit peu fort, mais au fond, c'est bien ce dont il s'agit. Depuis juillet 1790 et l'adoption par l'Assemblée de la Constitution civile du clergé, qui place le religieux sous le contrôle du politique, on peut dire que le roi Louis XVI ne se sent plus le maître dans son royaume. Il est devenu le jouet impuissant de factions rivales et il perd peu à peu non seulement sa marge de manœuvre, mais tout simplement sa liberté de mouvement. Au printemps de 1791, on va jusqu'à l'empêcher d'aller passer les fêtes de Pâques à Saint-Cloud, ce qui veut dire qu'on l'empêche d'assister à une messe célébrée par un prêtre insermenté. Et ça, aux yeux du roi, c'est la preuve qu'il n'est plus libre. Il est comme assigné à résidence aux Tuileries. Et on peut dire qu'à partir de ce moment, il ne peut qu'approuver la reine lorsqu'elle l'adjure d'exécuter un vieux plan mûri depuis déjà près de 18 mois. Elle veut, elle, depuis longtemps, fuir cette capitale impossible pour aller reconstituer l'autorité royale loin de Paris. La fuite du roi est donc programmée dans le plus grand secret pour la deuxième quinzaine de juin 1791. Donc, à ce moment de l'année où les nuits sont si courtes, et après d'ultimes mises au point ultra secrètes, la date du départ est fixée pour la nuit du 20 au 21 juin. Alors le plan est simple et a priori il est assez imparable. Le roi doit rejoindre l'armée loyaliste du marquis de Bouillé à Montmédy, donc ça se trouve tout à fait là-bas à l'est, hein, à l'ouest de Longwy. C'est une place qui présente le double avantage de se trouver encore en territoire français, mais à deux pas de ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas autrichiens. Montmédy est à 70 lieues à l'est de Paris, c'est-à-dire 286 de nos kilomètres. Ça veut dire qu'il va forcément falloir du temps. Il faut 12 heures, même pour un cavalier rapide, pour atteindre cette place. Au passage, je vous fais remarquer que c'est à tort que l'on parle de fuite à Varennes. Varennes n'était pas, tant s'en faut, la destination finale. Il convient plutôt de parler de voyage à Montmédy. Alors retenez bien ceci, pour couvrir cette distance très longue, il est prévu que l'on suivra jusqu'à Clermont-en-Argonne la route de Metz, une route qui est semée de relais de poste, ce qui va permettre de changer les chevaux à peu près tous les 15-20 km. Et puis, on bifurquera à Clermont pour emprunter jusqu'à Montmédy une route secondaire plus au nord, en passant par Dun et Stenay. Seulement, sur cette deuxième portion, il n'y aura pas de relais de poste. Il faudra donc que les chevaux soient fournis impérativement par l'armée du fidèle Bouillet. Vous allez me dire, et Varennes ? Eh bien, Varennes, dans le plan signé Choiseul, quand je dis Choiseul, on parle là du neveu du grand ministre, Varennes, c'est la limite ultime au-delà de laquelle les chevaux de poste devront être remplacés par des chevaux de l'armée. Vous allez voir toute l'importance, évidemment, de cette précision. On décide de prendre deux carrosses, une grosse berline pour le roi, la reine, la sœur du roi, Madame Élisabeth, les deux enfants royaux et leur gouvernante, Madame de Tourzel, et puis une plus petite voiture qui roulera devant pour deux femmes de chambre. Ces dernières, du reste, sont prévenues à la dernière minute, à 10h du soir ce 20 juin. On leur dit « Vous partez tout de suite pour Claye ?» Et après, demande-t-elle, on vous le dira là-bas. Les deux fugitives sont littéralement poussées dans un petit cabriolet jaune, une voiture de louage, et les voilà partis pour le nord de Paris. Pour les membres de la famille royale, évidemment, le départ est beaucoup plus délicat. Le roi ne doit surtout pas éveiller les soupçons. Donc on procède à la cérémonie traditionnelle du coucher, sans rien changer aux habitudes. Et à 11h30, la cérémonie a lieu à 11h30 précise. Et à 11h30, le dernier valet de chambre quitte donc la salle, la chambre, et là Louis XVI se relève. Il revêt une perruque rousse et une sorte de déguisement de domestique et il se dirige à pas de loup dans l'obscurité vers le lieu fixé en secret qui est le petit carrousel. Une bonne heure plus tôt, la gouvernante, Madame de Tourzel, a réveillé Madame Royale et le jeune dauphin. Elle leur a fait revêtir à eux aussi des déguisements. Le petit prince doit s'habiller en fille, ce qu'on lui présente comme un jeu, vous imaginez un peu la scène. Et puis, tous les trois rejoignent dans la cour des princes Axel de Fersen, qui est l'ami de cœur de Marie-Antoinette. Fersen les fait grimper dans une sorte de taxi, on appelle ça une citadine, pour gagner de leur côté le petit carrousel. Et là, c'est déjà l'angoisse. Pendant plus d'une heure, Fersen attend les autres fugitifs. Enfin, il trouve Madame Élisabeth, qui était sagement assise dans le noir sur un banc. Puis c'est le roi qui arrive, un peu haletant. Enfin, après un trop long moment, la reine, dans tous ses états, qui explique qu'elle s'est perdue en sortant des Tuileries et qu'elle a même dû demander son chemin à une sentinelle qui, heureusement, ne l'a pas reconnue dans son déguisement de simple bourgeoise. L'essentiel, c'est que tout le monde soit là. Donc là, j'allais dire le taxi, la citadine démarre au petit trot en direction de la porte Saint-Martin où doit attendre la fameuse berline de voyage de couleur verte qui a dû quitter vers 10h du soir l'hôtel de la rue de Clichy où on la cachait. À ce moment-là, l'opération accuse déjà près d'une heure de retard sur le plan. Seulement par acquis de conscience, Fersen fait encore un détour par cette rue de Clichy. Il veut s'assurer que la berline est bien partie. C'est le cas. Et de fait, on va finir par la retrouver à la barrière de la ville. On trouve aussi trois gardes du corps, Malden et Moustier. Et alors eux vont monter sur la banquette à côté de Fersen. Et puis Valorie, qui va servir d'éclaireur et galoper en avant pour faire préparer tous les relais. Allez, vite, il faut y aller, le temps est précieux. Au premier relais, celui de Bondy, Fersen fait comme prévu ses adieux à la famille royale. Et puis au deuxième, à Claye, on retrouve les deux malheureuses femmes de chambre qui étaient mortes d'inquiétude dans leur petit cabriolet. Il est vrai qu'on a maintenant 2 heures de retard sur le plan. 2 heures, là, c'est beaucoup trop. Fouette cochée, Paris s'éloigne à grands pas. Et alors que le soleil de ce premier jour de l'été s'élève déjà dans la douce campagne française, la famille royale, le fugitif déguisé, la famille royale anxieuse mais déjà soulagée, commence à souffler un peu. On rit nerveusement, on prie, le roi est de belle humeur. Pensez, quand sonne 8h au clocher des villages, on a largement dépassé Meaux. Or, là-bas, derrière, au palais des Tuileries, la nouvelle éclate. Le roi n'est plus là. Louis XVI est parti.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément au cœur de la nuit du 20 au 21 juin 1791 quand la famille royale s'enfuit et prend la direction de Montmédy, Franck.
Alors la grosse berline verte avance cas un cas, de relais en relais. Il faudrait aller plus vite. Les fugitifs n'ont finalement que 6 heures d'avance sur leurs poursuivants. Or la voiture est lourde alors que les poursuivants, eux, sont à cheval. Je parle de poursuivants, vous imaginez bien évidemment qu'à Paris, on n'est pas resté immobile. La nouvelle de la fuite du roi a fait l'effet d'une bombe et Lafayette qui commande de la garde nationale a tout de suite signé l'ordre de retrouver le roi et de le ramener. Une dizaine d'écuyers sont donc partis dans plusieurs directions, un peu à l'aventure. Le hasard a voulu qu'un certain Bayon choisisse le bon itinéraire. Le voilà qui galope, propageant donc la nouvelle de la fuite du roi à Bondy, à Clay, à Meaux, etc. Or, vers midi, un maraîcher de Clay vient témoigner à propos d'une berline et d'un cabriolet qu'il a trouvé suspect en les voyant passer comme ça dans la nuit sur les coups de 3 heures. Des positions confirmées par celle du jeune cocher qui a conduit le cabriolet des deux femmes de chambre, vous savez. Cette fois, les soupçons s'orientent vers la route de Verdun et à 1 heure de l'après-midi, Lafayette envoie un de ses officiers Romeuf dans cette direction, muni d'un décret de l'Assemblée nationale ordonnant l'arrestation, je cite, de tous les individus de la famille royale voulant sortir du royaume. Comme diraient les plus jeunes de nos auditeurs, c'est chaud.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie en ré mineur d'Henri-Joseph Rigel-Franck.
Alors où en sont les fugitifs? Dans un plan tel qu'il a été visé par le roi, la berline devait trouver pour l'escorter un premier détachement armé à Sommevel derrière Châlons. Il est 5h30 de l'après-midi quand le garde du corps Valory, vous savez celui qui avance en éclaireur, déboule bride abattue dans ce relais de Sommevel. Il est très excité à l'idée d'y trouver le jeune duc de Choiseul accompagné de 40 hussards. Ben oui, sauf qu'il ne voit personne, pas un soldat à l'horizon, alors que s'est-il passé? Eh bien, je vous ai dit que notre grosse berline verte avait pris du retard. Le fait est qu'elle accuse maintenant près de 3 heures sur l'horaire. Voyant cela, le duc de Choiseul a fini par penser que l'opération avait échoué. Le roi, s'est-il dit, ne viendra plus et il a donné l'ordre de lever le camp. Or, comble de maladresse, au lieu d'emprunter pour rejoindre le marquis de Bouillé la route que devait prendre la berline royale, ce qui aurait peut-être permis à l'éclaireur de le rattraper, Choiseul décide de couper par un chemin de traverse, chemin si mal repéré d'ailleurs que le détachement va finir par se perdre dans la nature. Pire que ça, il se trouve qu'à la demande de Marie-Antoinette, ce Choiseul avait emmené avec lui le coiffeur attitré de la reine, vous savez, le célèbre Léonard. Eh bien, avant de quitter Sommevel, à quelques minutes seulement de l'arrivée de Valory, Choiseul confie à Léonard la mission d'aller prévenir les détachements suivants, ceux qui attendent le roi plus loin sur la route. Il faut leur dire qu'il y a contre-ordre et qu'ils peuvent lever le camp. Or, malheureusement pour sa chère cliente, Léonard va trop bien s'acquitter de cette mission et l'on peut dire que c'est lui qui, bien involontairement, fait disparaître à l'approche du convoi royal des escortes qui pourtant étaient prêtes. Voilà 175 dragons qui se volatilisent comme ça, comme un mirage. Ce qui fait que lorsque Louis XVI et sa famille arrivent enfin à Sommevel, puis à Sainte-Ménéhoult, puis à Clermont-en-Argonne, ils ne trouvent aucune des troupes armées prévues. Vous imaginez la stupeur, l'incompréhension et l'angoisse qui s'installe dans la berline. Pour autant, et contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, à tort, le roi, dans cette situation, fait preuve d'une réelle détermination, d'un véritable esprit de suite. Puisque l'on trouve partout des chevaux de poste, eh bien, il continue sa route sans broncher. À Clermont, comme prévu, il bifurque vers le nord, en direction de Varennes. Au fond de lui, Louis XVI prie pour que les chevaux promis l'attendent bien là-bas. Des chevaux de la cavalerie, car vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les chevaux de poste, eux, ne vont pas plus loin. Comment Louis XVI pourrait-il imaginer qu'il est précédé partout par un Léonard qui démobilise les troupes censées l'accueillir? Il ne sait pas non plus qu'il est suivi d'assez près maintenant par un certain Vieille qui, lui, propage dans la population la nouvelle de la fuite de la famille. D'où vient-il ce Vieille? Qui l'a informé? Eh bien, vous vous rappelez les deux cavaliers Bayon, qui est très motivé parce que bon républicain, et Romeuf, nettement moins motivé car royaliste, mais bien orienté par des renseignements précis, tous deux sont partis à la poursuite de la berline. Eh bien, ces deux chevaucheurs se rencontrent au relais de Chintry avant Chalon et ils décident de continuer la poursuite ensemble. Seulement auparavant, Bayon a déjà fait prévenir le chef du relais suivant, celui de Chalon. Il lui a demandé de propager la nouvelle de la fuite du roi tout le long de la route de Verdun. C'est ce chef de relais qui s'appelle Viet, et c'est lui qui ameutera les populations sur le passage de la berline verte. Or, quand cette nouvelle fracassante parvient à Sainte-Menehould, les fugitifs ont quitté le relais depuis moins d'une heure. La municipalité réagit, elle charge le chef de relais qui s'appelle Drouet, ça c'est un nom bien connu, ainsi qu'un acolyte, de rattraper la berline en route pour Clermont. Alors, vous savez, on raconte toujours que Drouet aurait reconnu Louis XVI lors de son passage grâce à l'effigie du souverain sur une pièce de monnaie. En fait, lorsqu'on regarde de très près, ce n'est pas possible parce que Drouet n'était pas rentré de ses champs au moment du passage de la berline. La réalité, en fait, est plus simple. Sur sa route, à hauteur du hameau des Ilettes, Drouet croise deux de ses employés qui ramènent les chevaux de la berline, ceux qu'on a dételés à Clermont. Et bien sûr, ce sont ces deux hommes qui lui apprennent que le petit cortège a bifurqué vers le nord en direction de Varennes. Et immédiatement, plutôt que de passer par Clermont, Drouet et son acolyte décident de prendre un raccourci qui les mène droit à Varennes. Il est 9h30, ça fait bientôt 24 heures que l'expédition a commencé. La famille royale, qui maintenant devrait bénéficier d'une forte escorte, n'a toujours pas vu l'ombre d'un soldat. Madame Elisabeth prie, la reine Marie-Antoinette se mord les lèvres, une angoisse terrible les tenaille. Maintenant, la nouvelle a dû se répandre, on doit être à leur trousse, on va les rattraper. La grosse berline et le petit cabriolet entre dans le bourg endormi de Varennes. Ici, la nouvelle n'est pas encore arrivée et pour cause, elle continue de progresser en réalité le long de la grande route de Verdun. Valory est déjà là depuis trois quarts d'heure et il cherche désespérément les chevaux que le marquis de Bouillé avait promis d'envoyer pour relayer ceux de la poste. Alors le roi descend de la berline, il s'entretient avec les gardes du corps, il s'enhardit même à frapper au volet de la première maison, en vain. Décidément, Louis XVI joue de malchance. Il était prévu que les chevaux envoyés par Bouillé attendraient la berline au bord de la route dès l'entrée de la ville haute. Mais par une précaution de dernière heure, on les a fait entrer à peu près 300 mètres plus bas, dans les communs d'une auberge de la ville basse. Ils sont bien là, ces maudits chevaux. Ils attendent le roi et sa famille. Seulement, le roi et sa famille ne le savent pas.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le récit de Franck nous fait revivre un événement déterminant de l'histoire de France. C'était il y a 220 ans, la route de Varennes.
Alors à Varennes, les 60 hussards qui attendaient le roi et qui étaient casernés dans la ville basse au couvent des Cordeliers, toute cette troupe s'est elle aussi volatilisée parce que au moment même où la berline royale atteignait Varennes par la ville haute, le jeune lieutenant des hussards, constatant 3 heures de retard sur l'horaire, a donné l'ordre d'évacuer. Drouet, de son côté, est parvenu à Varennes juste après l'entrée des fugitifs. Il a d'ailleurs dépassé la berline et le cabriolet à l'entrée de la ville. Il est galvanisé, Drouet, par l'espèce de mission historique qui lui incombe. Il a filé au cabaret du Bras d'Or, juste après l'église. Il faut savoir que cette église enjambe alors la rue principale par une sorte de vieil arc médiéval. Drouet a rameuté les quelques ivrognes qui s'étaient attardés dans le cabaret et il est allé réveiller le procureur syndic de la commune, autant dire le maire, révolutionnaire, un épicier du nom de Sauce. Si bien que lorsque la berline et le cabriolet passent à la hauteur du porche médiéval, ils sont arrêtés par un petit groupe tout excité, armé de piques et de fourches. L'épicier Sauce demande les passeports aux voyageurs. Bien sûr, les papiers, on les rend en règle. Et Sauce serait d'avis de laisser passer les voitures. Seulement Drouet insiste. Ces gens sont déguisés. En fait, ce sont le roi, la reine, les enfants de France. Sauce est bien embarrassé. Il demande aux occupants des deux voitures de le suivre jusque chez lui, à l'épicerie qui se trouve un petit peu plus bas, vers le pont. Et là, donc, Louis XVI et sa famille entrent dans l'épicerie. Il faut savoir qu'à cet endroit précis, les fugitifs sont à moins de 100 mètres de l'auberge où, sans qu'ils aient pu le savoir, attendaient tranquillement leurs chevaux. Cette fois, la sonnerie du tocsin a réveillé tout le bourg. On se presse à l'épicerie Sauce. Évidemment, les voyageurs ont été invités à monter dans deux petites pièces aménagées au-dessus du magasin. Madame de Tourzel a couché le dauphin et sa grande sœur sur le lit des époux. Il faut dire qu'ils ont été complètement épuisés par cette folle escapade et qu'ils tombent de sommeil, ces enfants. Au bout d'une heure d'attente anxieuse, Sauce, qui avait disparu, se présente aux côtés d'un certain juge d'Estay qui a vécu à Versailles et qui reconnaît le roi. Et là, Louis XVI, si l'on peut dire, craque à sa façon. « Eh bien, oui, là, dit-il, je suis votre roi. » C'est alors que se produit une scène extraordinaire et qui montre quels étaient les sentiments profonds du peuple qui, jusqu'à cette période de Varennes, jusqu'à ces événements-là, est encore très attaché à la monarchie. Voilà ce qu'on lit dans le procès-verbal de la municipalité. Le monarque et son illustre famille daignèrent presser dans leurs bras tous les étrangers qui se trouvaient dans l'appartement et recevoir d'eux la même marque de leur sensibilité vive et familière. Louis XVI a les larmes aux yeux, il explique les raisons de son départ de Paris. Il n'était plus libre là-bas, dans cette capitale. Et c'est alors qu'une rumeur monte de la rue. En effet, les 40 hussards de Sommevel, sous les ordres directs de Choiseul, après s'être perdus dans leur prétendu chemin de traverse, débouchent, mais je précise bien, débouchent par hasard à Varennes. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. Les deux officiers qui commandent ce détachement, dont le jeune Choiseul, entrent dans la petite chambre. Ils y sont rejoints par un troisième officier. C'est là que tout va se décider. Un mot de Louis XVI et ses soldats, qui brûlent du désir de racheter leur faute de l'après-midi, emmèneraient à cheval les 8 fugitifs jusqu'à Dun, où Bouillé les prendrait sous sa protection. Seulement, Louis XVI, et s'il porte une responsabilité dans l'échec de l'opération, c'est à ce stade sans doute qu'il faut la chercher. Louis XVI, à force de vouloir temporiser, va finir là par manquer de décision et se jeter dans la gueule du loup. Maintenant, chaque heure qui passe représente un peu de terrain perdu. La population des environs, qui a été alertée par le tocsin, a pris Varennes d'assaut. Or, sur les coups de 5 heures, on annonce l'arrivée des messagers de Lafayette et de l'Assemblée, hein, Bayon et Romeuf. On connaît la suite. Les longs atermoiements, l'énervement de la foule, la célèbre phrase de Louis XVI, après qu'il a lu le décret de l'Assemblée, « Il n'y a plus de roi en France ». Il n'y a pas de mots pour décrire les 3 jours horribles du retour vers Paris des fugitifs interpellés. Cette foule, vous savez, qui tout le long de la route va crier, insulter, cracher sur le carrosse, conspuer les souverains rattrapés. La fuite de la famille royale, interrompue à Varennes, va s'achever dans une atmosphère de haine et de violence larvée. C'en est bien fini cette fois de l'attachement des Français à leur vieille monarchie de droit divin. Encore une grosse année et la République sera proclamée en France. Alors, qu'avaient prévu Louis XVI et Marie-Antoinette? D'où vient ce plan de la fuite vers Montmédy? Quelle était la véritable intention de cette expédition dans l'Est? Qui était réellement le marquis de Bouillé? Quel rôle a-t-il joué? Quels ont été dans l'ombre les autres acteurs de ce grand drame? Autant de questions que nous allons nous poser là, tout de suite, juste après le flash de 14h, en compagnie de Dominique Zachary et en compagnie, j'allais dire évidemment, de notre grande spécialiste de cette époque et de ses personnages, Evelyne Levert, qui sera là avec nous.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et on retrouve effectivement Franck avec ses invités sur Europe 1, Dominique Zachary qui est journaliste et auteur de Marie-Antoinette, La fuite en Belgique aux éditions Racine, et Evelyne Levert qui est historienne, spécialiste du 18e siècle, auteur de nombreux livres sur la vie de Marie-Antoinette et de Louis XVI, Franck.
Eh oui, bonjour chère Evelyne Levert, merci d'être des nôtres. Vous avez souvent eu l'occasion de raconter évidemment cet épisode, qui est l'épisode le plus poignant, le plus stressant, si j'ose dire, de peut-être pas de la vie, mais en tout cas de la fin de la carrière de Louis XVI.
Oui, et c'est en même temps le plus romanesque, si on peut dire. C'est un roman qui finit mal. Mais à chaque fois que je l'ai écrite, cette histoire, eh bien j'ai toujours pensé qu'ils allaient être sauvés. Et ils ne sont pas sauvés.
Parce que
ils sont faits de peu de choses. Et puis, enfin, ils ont réussi la chose la plus difficile, c'est-à-dire à s'évader des Tuileries. Et il n'y a pas que le roi seul, il n'y a pas que la reine seule, il y a le roi d'un côté, la reine,
oui,
les enfants.
Oui, tout va bien, il y a même la sœur du roi, tout le monde est là.
Tout le monde est là, ils sortent de Paris. Et si vous connaissez un peu la région de l'Argonne, ce que M. Zachary connaît bien, eh bien, on est vraiment là, au bout du monde. vous savez, Varennes, c'est un petit village, enfin, c'était dans mon enfance encore un petit village. Aujourd'hui, je crois que la ville est plus importante, mais à l'époque, c'est vraiment, ils sont loin, loin. loin de tout.
Je ne connais pas Varennes, c'est une grosse lacune et nous avions prévu avec Lorena Martin qui m'aide à préparer cette émission, nous avions prévu d'y aller d'ailleurs pour préparer l'émission. Et puis voilà, l'emploi du temps étant ce qu'il est, nous n'avons pas pu le faire, mais on le fera très vite. Et celui qui m'en parlait toujours, c'était André Castelot qui avait refait tout l'itinéraire, qui était allé voir les différentes auberges à une époque, à la fin des années 50 ou début des années 60, où c'était...
On pouvait retrouver très facilement, parce que je l'ai fait moi-même à l'époque, j'étais une petite fille et je l'ai fait avec la famille. Et
je pense qu'aujourd'hui avec les bretelles, les routes ont changé.
Non, maintenant je crois qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, Varennes n'est quand même pas une grande ville. Pardon, je demande pardon aux Varennois.
Mais non, mais c'est une charmante, c'est une charmante petite ville. Alors, vous la connaissez-vous bien, vous, Dominique Zachary?
Oui, en Belgique, on parle des années 90, mais en 92, traduit pour nos amis français, 92, le général Dumouriez parlait de Varennes et de cette région, de l'Argonne, comme étant les Thermopyles de la France. C'est une région, ce qui signifie très explicitement que c'est une région avec des défilés, des vallées, des hauts plateaux, des marais, des marécages, des forêts. Une région très difficile à traverser. D'où la difficulté, vous l'avez dit Franck tout à l'heure, la difficulté de placer des relais. De chevaux en sécurité suffisante pour le roi. C'était
Alors,
très difficile.
Vous qui êtes journaliste en Belgique, comme vous l'avez précisé, Dominique Zachary, vous vous êtes donc là donné le temps de mener une véritable enquête historique et de retrouver tous les éléments, tous les témoignages. C'est un travail d'investigation que vous avez fait.
Alors je n'avais aucune prétention de retravailler sur l'événement même de Varennes, mais ce qui m'intéressait c'était l'amont et l'aval de Varennes. Singulièrement, j'ai vu à la frontière puisque...
Autrement dit, les préparatifs et les répercussions.
Absolument.
Alors nous allons nous concentrer dans un premier temps sur les préparatifs.
Alors, en ce qui concerne les préparatifs, j'ai trouvé qu'il y avait un rôle majeur joué par le général de Bouillé, qui était Bouillé, c'était un général français qui dirigeait les trois évêchés à Metz, Verdun et Toul. Il rêvait en fait de son bâton de maréchal. Vous savez, on pense qu'il y a beaucoup d'esprit, d'idéal chevaleresque dans nos militaires, mais il y a aussi beaucoup de vanité. Et lui, son rêve, c'était de recevoir le bâton de maréchal à Montmédy, des mains de son roi, Louis XVI. Et pour cela, il a fait un serment d'allégeance et de fidélité à son roi. Il a essayé de mettre en place tout un plan en contact avec Fersen, un plan de sécurité, de sauvetage du roi. Mais Bouillé était un type intelligent. Il s'est rendu compte que plus le temps passait, plus les armées étaient de moins en moins sûres. Il disait à un moment donné, il écrit dans ses mémoires, il dit, je cite de mémoire... L'infanterie française, l'armée était si corrompue que je ne pouvais plus me hasarder à placer le moindre régiment à la garde du roi. Et alors on constate que dans les semaines qui précèdent Varennes, Bouillé va faire une double attitude, tout en menant l'opération de sauvetage du roi. Il va lui-même inciter Marie-Antoinette à passer de l'autre côté, dans les Pays-Bas autrichiens, pour se réfugier dans un lieu plus sûr à Luxembourg.
Voilà, ça c'est ce que vous dites, c'est toute la grande thèse du livre, c'est qu'en fait, le but n'était pas d'aller seulement à Montmédy, mais c'était d'aller carrément à Luxembourg, c'est-à-dire de passer dans les Pays-Bas autrichiens, de sortir de France, ce qui a des répercussions historiques, politiques, majeures. Vous avez intitulé le livre « Marie-Antoinette, la fuite en Belgique ». Alors, c'est vrai qu'on parlait déjà de Belgique, même si l'État n'existait pas, évidemment, c'était bien avant. Mais pourquoi avoir mis Marie-Antoinette en avant? Elle a été l'artisan, ou en tout cas elle a été l'âme de cette expédition.
Je pense qu'Evelyne Levert ne me démentira pas. Marie-Antoinette, une bonne année déjà avant le départ proprement dit des Tuileries, a déjà toute une série d'échanges épistolaires avec l'ambassadeur Merci d'Argenteau, où elle prépare déjà cette fuite. Dès le mois de mars, 4 mois avant Varennes, elle fait passer un nécessaire de toilette, elle fait envoyer tout un trousseau de vêtements
à Bruxelles.
Donc elle ne peut pas partir sans un certain apparat. Donc elle le prépare de longue date et elle le dit à ses femmes de chambre, elle le dit à Madame Campan, elle dit qu'elle va voyager dans les pays étrangers.
Oui, c'est certain. Mais je crois que là, il y a quand même des problèmes un petit peu plus forts que cela. C'est-à-dire que depuis 1789, depuis octobre 1789...
Depuis ce qu'on appelle les journées d'octobre, le départ de la famille royale de Versailles.
Dans des circonstances extrêmement dramatiques, la famille royale a été ramenée à Paris et s'est sentie prisonnière aux Tuileries. Et à partir de ce moment-là, et même déjà, ça avait commencé à partir du 14 juillet, on a parlé d'une fuite de la famille royale dans un lieu sûr auprès enfin, dans une place forte militaire où elle aurait un appui de l'armée. Déjà le 14 juillet 89, on a dit on va aller à Metz. Et c'est le maréchal de Broglie qui avait dit à ce moment-là à Louis XVI, oui, on peut aller à Metz, mais qu'est-ce que nous y ferons ? Donc, cette idée d'échapper, disons, aux forces populaires
et aux forces parisiennes,
et c'est une idée qui remonte à juillet 89. Et cette idée va devenir de plus en plus forte à mesure que l'Assemblée élabore la Constitution qui change complètement la donne politique en France.
Et la donne religieuse, c'est ce que nous allons voir dans...
Politique aussi.
Oui. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Tout à l'heure, Franck, voici un extrait de la bande originale du film d'Ettore Scola, La nuit de Varennes.
Ah oui, si vous n'êtes pas accaparé ce soir par les diverses festivités de la fête de la musique, je ne peux que vous conseiller de regarder ça. C'est un bonheur, ce film. Alors évidemment, sur le plan tout à fait factuel, on est assez loin de la réalité des faits, mais en revanche, c'est très authentique dans l'esprit. Et on est vraiment, c'est une sorte d'efflorescence de tout ce règne de Louis XVI et de cette fin du XVIIIe siècle à travers les deux personnages principaux. Rétif de la Bretonne et Casanova, mais aussi à travers tous les personnages secondaires. C'est une belle évocation, hein, La nuit de Varennes.
Très beau film. Voilà, le genre de film historique qu'on peut vraiment apprécier.
Et qu'on aime voir et revoir. Alors, revenons donc à ces questions de préparatifs compliqués. Ce qu'il faut dire, c'est que le tout premier à avoir songé à extrader, si je puis dire, à faire sortir la reine de Paris, je dis bien la reine, c'était le secrétaire de ses commandements, c'est-à-dire Jacques-Mathieu Ojard. Hein, c'était lui qui, le premier, a eu cette idée.
C'était à l'automne 89.
Oui, c'est ça, dès le début de la Révolution.
Lui possède un château pas loin de Varennes. C'est le château de Buzancy qui se trouve juste en avant de Stenay. Et il a l'idée déjà d'amener la reine seule, sans le roi, sur la route de Luxembourg déjà, avec un château qui servira de relais pendant la nuit à Buzancy. Mais la reine va refuser.
Parce que la reine ne veut pas partir sans le roi.
Elle refuse de partir sans le roi. Et elle dit même, mon devoir est de mourir au pied du roi. Donc
Alors, il reste évidemment la question essentielle au moment de tous ces tout premiers préparatifs, la question essentielle de l'attitude de l'empereur, car ce sont des terres qui dépendent de l'empereur d'Autriche, donc du frère de Marie-Antoinette, Evelyne Levert.
Et Louis XVI n'a pas voulu que l'itinéraire allant jusqu'à Montmédy passe justement, on aurait pu aller plus vite en passant par les terres d'Empire. Mais ça... Louis XVI l'a refusé parce qu'il veut rester absolument en France. Mais enfin, disons que la raison fondamentale qui conduit Louis XVI et Marie-Antoinette à aller vers Montmédy pour pouvoir devenir les arbitres entre les sujets révoltés de Louis XVI et les sujets fidèles à la monarchie, c'est la préparation de la Constitution. Parce que la Constitution, elle commençait depuis le printemps 1789 à être rédigée et on arrive en 1791, elle est presque achevée. Et cette Constitution, il y a tout un aspect qui est un aspect civil et puis il y a aussi l'aspect religieux dont vous avez parlé. Mais cette Constitution rogne les pouvoirs du roi et le roi estime qu'il ne sera plus le souverain qu'il devait être.
Il n'a plus les mains libres, en fait.
Non seulement il n'a plus les mains libres, mais cette constitution ne lui convient pas parce que le pouvoir législatif va devenir trop important et son pouvoir exécutif est trop amoindri. Et c'est la raison qui le pousse finalement à accepter le projet que la reine proposait, c'est-à-dire le projet d'aller vers une place forte avec la possibilité d'avoir l'aide de troupes étrangères, puisque la reine écrit régulièrement à son frère pour avoir l'appui de ses troupes. Tout le problème est là.
Louis XVI décide donc de prendre large, d'aller s'installer aux frontières même de,
ah oui,
de,
c'est
de,
la
des
frontière.
Pays-Bas.
Oui, et de l'autre côté, il y aura les troupes, en principe, de Léopold II, le frère de Marie-Antoinette, qui est l'empereur.
Donc, on peut clarifier ça, Evelyne Levert. J'allais dire une bonne fois pour toutes, on sait que l'histoire est un éternel recommencement.
Mais
enfin, clarifions pour nos auditeurs. Contrairement à cette légende qui dit que Louis XVI partait à recul, donc il n'avait pas envie, etc., il est motivé.
Il est tout à fait d'accord. Mais alors, lui veut se poser en arbitre. Il ne veut pas revenir avec les troupes étrangères pour réinstaller son pouvoir d'autrefois à Paris ou à Versailles. Il veut être là en tant qu'arbitre. Mais alors là, c'est là qu'on ne sait absolument pas ce qui se serait passé. Parce que lorsque Louis XVI part, il laisse un manifeste extrêmement important où il explique qu'il va récupérer
testament
sa liberté.
Testament politique, en fait.
Une sorte de testament politique, oui. Mais là, on ne sait pas. Après, il y a comme une menace pour les Français, une menace de revenir avec les troupes, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Et je crois que Louis XVI ne savait pas exactement ce qu'il allait faire une fois qu'il aurait été à Montmédy avec Bouillet. Il ne le sait pas.
Dit Dominique Zachary, c'est que l'idée était bien d'aller quand même jusqu'au Luxembourg. Est-ce que Louis XVI, lui, a cette idée-là?
Non, écoutez, l'histoire du Luxembourg,
pas, hein.
Bon, c'était peut-être un refuge qu'a trouvé Dominique Zachary, mais non, mais l'idée, c'est on reste à Montmédy. Et bah, on peut habiter dans un château voisin, certes, on ne va pas habiter dans la place forte, mais peut-être habitera-t-on la place forte. On ne sait pas, c'est pas préparé. La fuite
Bouillet
est préparée, mais on n'a pas préparé l'après-fuite. Parce que on le sait d'après tous les documents qu'on a, que ce soit aussi la correspondance de Louis XVI et de Marie-Antoinette avec Breteuil, que ce soit la correspondance de Louis XVI avec Mercier-Argenteau, qui lui dit « Faites attention !» Mercier-Argenteau lui dit « Faites attention, les grandes puissances ne font rien pour rien. » C'est l'expression de Mercier-Argenteau.
De realpolitik dans l'histoire.
Il y a de la realpolitik, bien entendu.
Mercier Argenteau avait été l'ambassadeur de Marie-Thérèse d'Autriche en France, puis il était là,
oui,
il se trouvait donc à Bruxelles.
Oui, il avait toujours été le conseiller de la reine. Et il y a entre eux une correspondance absolument extraordinaire sur le plan politique, où l'on voit que Mercier Argenteau est en train de calmer plutôt les ardeurs de la reine en lui disant que cette idée de partir pour Montmédy, pour une place forte, est une erreur politique parce que ça va dégénérer en conflit, ça peut faire une guerre civile en France et ça peut créer une guerre entre la France et les puissances étrangères.
Dans quelques instants, juste après la publicité, nous revenons sur un certain nombre d'acteurs de l'ombre.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
La fuite vers Varennes est l'événement qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1. Vous l'avez peut-être entendu que ça continue de débattre hors antenne. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à nos experts émérites, c'est le moment. Internet, europe1.fr, Franck.
Oui, à vous entendre, me dit Patrick, on a l'impression d'un roi pacifique et réfléchi, donc peu doué pour l'action. Dès lors, comment aurait-il pu s'en sortir? Question piège pour Evelyne Levert.
Écoutez, il y avait le moyen, lorsqu'il était à Varennes, il aurait très bien pu se mettre à la fenêtre et haranguer ses sujets en leur disant les malheurs qu'il avait éprouvés.
Un
vrai discours de chef. Et il aurait pu partir à ce moment-là, lorsqu'il y avait les hussards de Choiseul qui étaient là. Choiseul le lui propose et il dit « Je vais demander à quelques-uns de mes hommes de descendre de cheval. » Et la reine montait très bien à cheval, Madame Élisabeth, et il serait parti. Et on est à quelques dizaines de kilomètres simplement de Montmédy. C'était extrêmement facile. Et là, s'il avait été résolu. Mais comme l'a très bien dit Stéphane Zweig, je crois, il a dit là, on a deux allures qui se croisent. Il y a l'allure de l'ancien régime qui est une allure d'atermoiement, de douceur,
de lenteur.
Et de l'autre côté, on a l'allure de la révolution. Et la révolution va vite.
Et elle est au galop,
elle
à la
hussarde. Elle est au galop, à la hussarde. Et lorsque les hussards de Choiseul restent, ils fraternisent avec la foule. Et c'est là qu'on voit que, justement, l'armée n'est pas sûre. Parce que les hussards, à ce moment-là, il n'est plus question qu'ils soutiennent en quoi que ce soit le roi. Et d'ailleurs, Bouillet l'avait dit, il n'était pas sûr de ses hommes, pas sûr de ses troupes. Et lorsque la famille royale reviendra sur la route de Paris, on verra toute cette population que l'on croyait quand même fidèle à une certaine idée de la monarchie, on verra toute cette population qui se conduira en population hostile.
Et de plus en plus hostile à mesure qu'on approche de Paris.
De Paris, mais même déjà dans la région de cette région d'Argonne, qui est quand même une région lointaine, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure.
Ça a été vraiment des journées d'une
dureté folle. On ne sait pas ce qu'aurait pu faire Louis XVI.
Alors Dominique Zacharie, ce qui étonne un peu, c'est l'attitude de Bouillet dans tout ça, que l'on voit finalement très en retrait, très statique, et qui ne vient même pas au-devant de ses hôtes royaux.
Je crois qu'il y a une chose fondamentale sur laquelle il faut insister, c'est que Bouillet ne croyait pas du tout au plan de réussite.
Donc Bouillet, pour ceux qui prendraient l'émission en cours, précisons que c'est le chef militaire qui est censé prendre sous sa protection la famille royale en fuite, en fait. Hein.
Absolument. Il croyait un plan plutôt d'amener le roi du côté de Compiègne, de Fontainebleau, voire du côté de la Normandie, et il n'a jamais pensé que ce plan allait réussir. Alors ce qui fait qu'il, lui, il se place le plus près possible de la frontière, à tel point qu'on pense qu'il a une collusion avec les Pays-Bas autrichiens. Et on s'est posé aussi la question, qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient réussi à franchir cette frontière? Et là, on constate, comme je l'ai vu dans les documents d'archives, du côté des Pays-Bas autrichiens, il n'y avait aucune troupe autrichienne, contrairement à ce que d'Argenteau, Léopold avait laissé espérer. Eux ne voulaient pas d'effet de contagion.
Et le marquis de Bouillet était prêt à émigrer, lui, de son côté.
Et lui était prêt à émigrer. Il avait déjà des sollicitations du côté de la Suède, du côté de la Russie. Il était prêt à s'enfuir. Et en fait, on n'est pas plus surpris que ça, que le plan a complètement échoué parce que il y avait une impréparation, une inconséquence. Il faut dire aussi que le général de Bouillet a voulu protéger son fils, Louis de Bouillet, qui... n'ayant pas placé le cheval au bon endroit à Varennes.
Il n'a pas été très efficace à Varennes, c'est le moins qu'on puisse dire.
A mis 3h30 pour prévenir son père, qui était à quelques kilomètres de là, parce que le père Bouillet aurait encore pu revenir de Dun-sur-Meuse à Varennes pour venir sauver le roi.
Dominique Zacharie, Marie-Antoinette, la fuite en Belgique, c'est chez Racine, dans la collection Les Racines de l'Histoire. Et donc vous revenez, parce que nous n'avons fait là qu'effleurer un sujet très vaste, évidemment, comme malheureusement nous le faisons souvent, mais c'est pour vous donner envie d'aller voir plus près les choses. Vous évoquez toute la question de la longue préparation, des différents préparatifs, des plans, des acteurs. J'aurais bien aimé qu'on parle de Breteuil, qu'on parle évidemment de Fersen, etc., mais on n'a pas le temps. Tout ça est dans le livre de Dominique Zacharie, donc Marie-Antoinette, la fuite en Belgique. Et puis, je ne sais plus quoi citer d'Evelyne Levert. Évidemment, c'était Marie-Antoinette, ça c'est un pur régal. C'est dans la collection Plurielle, bien entendu. Et puis, une chose très importante pour les historiens professionnels ou amateurs endurcis qui nous écoutent, Marie-Antoinette, toute la correspondance de 1770 à 1793 s'est publiée chez Talendier et ça avait obtenu en 2006 le prix Sévigné, un prix bien mérité. Merci beaucoup d'avoir été très clair et très concis sur un sujet où il y aurait encore tant à dire. Et cette fois, je peux dire en toute quiétude, parce qu'elle est assise juste à côté de moi, bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Cette fois-ci, je n'ai pas trébuché dans l'escalier. Jusqu'à 15h30 cet après-midi, on va s'intéresser à votre jardin et à la manière de s'occuper de lui avec l'arrivée de l'été. Alors, c'est pas le ciel bleu rêvé, hein, ni le grand soleil aujourd'hui, jour de l'été. Et pourtant, on va se poser toutes les questions pour prendre soin de votre jardin, de vos tomates, de vos salades, de vos arbres fruitiers, de vos légumes. Et ce, avec le superman de nos jardins, c'est Stéphane Marie, l'animateur de Silence ça pousse sur France 5. Il sera à nos côtés pendant une heure pour répondre à toutes vos questions en direct et essayer peut-être de trouver des solutions à vos problèmes. On vous attend donc dès maintenant avec peut-être vos astuces et vos anecdotes également. Faustine.europe1.fr et le 3921 pour nous joindre en direct sur Europe 1, Franck.
C'était l'été, c'est vrai. C'est bien de le préciser.
Oui. On l'a assez facilement oublié aujourd'hui.
Merci Faustine, à demain Julien.
Merci Franck, à demain sur Europe 1.